radiocultura.com.
Le pire pour moi, en tant qu'historien, parce que nous on essaie de faire de l'histoire dite objective à la fin des années 70, début des années 80, on croyait qu'on était dans une histoire qu'on pourrait qualifier de juste. Beñatin Sogarmendia, historien de formation, et donc sur le Pays Basque, puisque c'est ma passion depuis 1970. Mais voilà, on était persuadé qu'on avait la vérité, qu'on allait trouver la vérité, que quand on disait quelque chose, c'était vrai. L'Inquisition m'a fait changer complètement d'opinion sur certains aspects, et on pourrait en parler. La sorcellerie, en Pays Basque aussi, m'a ouvert l'esprit d'une manière phénoménale. Mais ce qui me l'a peut-être ouvert le plus, et de très loin, c'est que lorsque j'ai pénétré, avec bonheur et une chance phénoménale, les carnavals basques. Je suis rentré dans un monde où je ne comprenais plus rien. Je voyais des choses phénoménales à mon point de vue parce que j'avais des images stéréotypées des carnavals. Et autour de moi, lorsque j'ai eu la chance d'être invité au carnaval du Staris pour être cache-carotte, et jamais je ne remercierai assez mes amis du Staris qui m'ont invité comme cache-carotte alors que j'étais étranger au Pays Basque et bien sûr étranger à leur ville. Lorsqu'au début des années 80, je suis venu passer un week-end avec eux et faire l'Etche-Setche ou la tournée des maisons avec eux, en tant que cache-carotte, me laisser une place, je suis rentré le dimanche soir, au bout de 2 jours, en me disant que je n'avais strictement rien compris à ce qui s'était passé et que ça ne représentait pas du tout ce que j'avais comme idée. Lorsque j'en ai parlé aux gens du groupe, de notre association folklorique basque à Toulouse, personne ne voulait me croire. Tout le monde était persuadé que j'étais parti là-bas et que pendant 2 jours, j'avais fait la fête. Lorsque j'expliquais ce qu'est un rituel de carnaval, il a fallu presque des mois pour que les gens finissent par admettre que peut-être je leur disais la vérité, tellement on était à 100 lieues de se douter que les carnavals pouvaient être avant tout un rituel, une richesse communicative entre les gens du village ou d'une ville, et non pas une fête au sens primaire du terme, même si cette fête-là est toujours très très intéressante. À partir de cette expérience à Ustaris que j'ai eu l'occasion de renouveler avec eux, comme avec mes amis de Briscousse ou dans quelques autres villes du Labour ou villages du Labour, eh bien, je n'ai eu de cesse que de vouloir pénétrer cette culture, on va dire, carnavalesque du Pays Basque, quand bien même il y a des personnages qu'on retrouve à travers toute l'Europe, et essayer de la comprendre. Eh bien, aujourd'hui, en 2010, je ne sais pas si j'ai fait un grand chemin. Tellement la richesse est grande et tellement on est peut-être des fois dans l'impossibilité d'affirmer ou de donner une réponse définitive à un phénomène que l'on constate. Je pense qu'aujourd'hui, on peut tirer à grands traits ce que sont les carnavals, donner la principale symbolique ou des formes de symbolique ou les expliquer. Affirmer qu'on a raison à 100%, eh bien non. On est toujours dans une quête de réponse. Et si on veut un exemple, il n'y a qu'à voir les mascarades sous le tine qui sont parmi les formes carnavalesques les plus riches que je connaisse. Eh bien, dans cette forme-là, je crois qu'il n'y a pas qu'une seule interprétation par rapport au personnage. Lorsque je vais en parler des fois en soule avec des amis, notamment avec Marcel Védès-Chagar, on se rend compte qu'on n'a pas nécessairement la même grille d'analyse, ni lui, ni des proches à lui, ni d'autres sous le tête, ni moi bien entendu. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une réponse, mais souvent peut-être plusieurs réponses, parce que l'être humain n'a pas toujours choisi de mettre une réponse à une question. Les carnavals ont évolué, et en évoluant, ils ont pris, ils ont laissé, ils se sont adaptés, ils ont copié, ils ont fait, ils ont inventé. Et donc, il y a des tas de connaissances qui sont à l'intérieur. Et aujourd'hui, pour les décoder, c'est très difficile. Voilà, il y a plusieurs formes de carnaval. Il y a la forme qu'on pourrait qualifier aujourd'hui actuelle, comme on a perdu le sens du carnaval la plupart du temps. On se déguise au moment du carnaval. Et là, c'est un petit peu n'importe quoi. Chacun fait ce qu'il a envie, comme il a envie. mais c'est très loin de l'origine du carnaval. Le carnaval, à un moment donné, il faut le concevoir comme un moment qui n'est pas nommé tout à fait, presque dans le temps, où l'on est complètement différent de ce que l'on est habituellement. On change de personnalité le temps du carnaval. C'est-à-dire que habituellement, nous sommes des êtres humains très civilisés, souvent même très polis, respectueux, bien habillés, qui faisons tout ce qu'on doit faire pour être intégré à la société. Et le carnaval, c'était le seul moment de l'année où l'être humain pouvait devenir complètement différent de toutes les règles qu'il devait observer dans l'année. C'est un petit peu comme la soupape d'une cocotte minute, où pour une fois dans l'année, eh bien, on peut faire à peu près ce que l'on a envie, comme on a envie. Et donc, l'être humain est allé chercher, eh bien, plusieurs choses. La première, c'est peut-être changer de personnalité, devenir quelque part un homme sauvage qui est absolument le miroir inverse de ce que nous sommes habituellement. Et en même temps, peut-être sortir, faire émerger quelques-unes des peurs que l'on a et essayer de les combattre. En devenant des personnages au moment du carnaval, on devient ce que moi j'appelle dans certains carnavals, par exemple Yualdun, d'Itouraine et de Subieta, des prêtres païens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'attribue exceptionnellement des pouvoirs qu'on n'a pas du tout dans l'année. Et prêtres païens, il faut l'entendre comme des prêtres exorcistes qui vont protéger, qui en faisant leur carnaval, en faisant leur défilé, vont protéger les gens des maisons. Quand je dis les gens, il faut entendre les gens et tous les animaux qui vivent dans la ferme. Pour ceux qui pourraient douter de cette connotation très riche, très très forte, et ça c'est quelque chose là au-dessus, je crois que la réponse elle est clair et que c'est une réalité, là on ne se pose plus trop de questions, il suffit de voir comment se fait normalement la quête de maison en maison. Normalement, les personnages qui font le carnaval vont devant la porte d'entrée de la maison. Si on se rappelle comment fonctionnait la maison basque, on passait tous par la même porte à peu de choses près. La porte du rez-de-chaussée, aussi bien celle par laquelle passaient les animaux que passaient par les êtres humains. Et quand ces personnages du carnaval labourdin, du carnaval d'Abalsisqueta, les frères jumeaux du carnaval labourdin, et là je vous invite franchement à aller le vivre et vous comprendrez de suite pourquoi aujourd'hui sur ce point je crois qu'on peut dire oui, on a raison, on le sait. Si d'autres points on est toujours dans les questions, on peut l'affirmer. Les Yualdun, Itouraine, Subieta et plein d'autres carnavals qu'on pourrait citer, eh bien on va danser devant la porte d'entrée de la maison. Il faut imaginer que ce sont des prêtres exorcistes qui sont venus, qui ont chassé tout le mauvais qui pouvait tourner autour de la maison, tout le mauvais sort qui pouvait guetter la maison. Et lorsque ces personnages ont fini, avant de repartir, la maîtresse de maison, je dis bien la maîtresse et non pas le maître de maison, la maîtresse de maison recevait ou reçoit ou donne quelque chose aux personnages qui sont venus. Ça peut être un don en nature, souvent c'est aussi un don en argent aujourd'hui. Dans ce don en nature, souvent c'est de la nourriture, de la boisson. On accueille, on ouvre la maison exceptionnellement à des personnages qui n'ont jamais l'occasion de rentrer dans cette maison. Et même souvent, comme ce sont des gens du village, souvent ils ne sont jamais rentrés dans la maison du village. C'est presque la première fois où ils ont presque tous les droits pour pénétrer dans la maison visitée, parce qu'en fait, ils sont comme des exorcistes qui viennent protéger tous ceux qui vivent à l'intérieur de la maison. Ça, c'est un caractère très très fort de ce que l'on trouve dans les carnavals basques, bien sûr, mais aussi dans une très grande partie de l'Europe où on a réussi à conserver de ces carnavals traditionnels ou de ces carnavals ruraux. Ça, c'est un aspect important pour l'être humain. Je le compare comme un peu quand je parle parfois de la sorcellerie. Les Basques, on les avait accusés de sorcellerie. En fait, les Basques faisaient partie de ces peuples qui sont devenus chrétiens parce qu'on leur a imposé la religion chrétienne, comme à presque tout le monde, ou notre religion, peu importe. Mais au départ, ils avaient d'autres pratiques, on va dire, superstitieuses. Quand on nous impose quelque chose, on prend ce qui nous est imposé, mais on garde ce qu'on avait avant. Eh bien, on a gardé en Pays Basque cette tendance à tous ces rites superstitieux. Et le moment du carnaval est peut-être le seul moment de l'année où on peut sortir ces rites superstitieux sans courir le moindre risque. Thank you. Il n'y a qu'à prendre certains exemples et on voit bien que même si les Basques étaient très chrétiens, soi-disant, parce que l'Inquisition nous montre que jusqu'au XVIIe siècle, c'est une affirmation qu'il faudrait réviser. On a beaucoup d'éléments où on voit que les Basques vont peut-être à la messe, mais gardent leur rite superstitieux. Pourquoi les garde-t-on ? C'est très simple. On va appeler le bon Dieu à notre secours ou la Sainte Vierge. Mais comme ils sont très occupés, puisque tous les êtres humains leur demandent presque simultanément un secours, eh bien, on garde souvent les anciens dieux, les anciennes croyances qu'on avait, et on fait appel aussi à ces croyances-là. Si l'heureux événement se produit, si l'attente elle est comblée, on ne sait pas si c'est le bon Dieu qu'il faut remercier, la Sainte Vierge, ou les autres croyances, ou les autres dieux, ça fait rien. Le principal, c'est qu'on ait ce bonheur qui arrive. Je partirai du principe de dire que les Basques sont très chrétiens, oui, mais ils ont une double assurance en gardant leur vieux Dieu dans l'autre poche, en se disant, au cas où le bon Dieu ne pourrait pas m'entendre parce que nous sommes trop nombreux, si les autres dieux existaient par hasard, si par hasard ils pouvaient répondre à mes attentes, ce serait merveilleux. Et là, le carnaval, ces prêtres païens, ces prêtres exorcistes que nous voyons dans tous ces personnages-là, eh bien, ils répondent à ce double sens. Souvent, on a la sensation que l'on voit des personnages avec des costumes bizarroïdes. Parfois, quand on est étranger, et ça, je l'ai souvent vu avec des gens qui ne connaissaient pas le Pays Basque, et quand ils nous voient, par exemple, en Banavaré, avec ces tiares, ces super tiares, ils ne comprennent pas pourquoi on porte une tiare. Qui porte une tiare habituellement, jusqu'à preuve du contraire? C'est la haute hiérarchie de l'Église catholique, on va dire des évêques, des archevêques, voire le pape, mais on ne va pas aller si loin, mais déjà rien que des évêques. Or, quand on voit les Banavari historiquement du 19e siècle et début 20e siècle avec leur tiare, il ne faut pas l'analyser comme une moquerie par rapport ou brocarder la religion. Non, c'est un peu ces histoires de prêtres païens. En investissant cette coiffe qui est très importante dans la hiérarchie chrétienne, eh bien, ces hommes qui habituellement sont des êtres humains normaux font comme s'ils pouvaient accaparer momentanément le pouvoir un peu protecteur de l'Église, et en faisant leur défilé à travers les villages et les maisons, eh bien, ils essayent de protéger les gens de la maison. C'est pour ça qu'on peut dire des prêtres païens aussi, c'est-à-dire qu'il y a quelque part un aspect religieux et surtout pas une moquerie, et en même temps tous les rites superstitieux. On fait un syncrétisme de tout, on mélange tout ça, comme on dirait un touilleux bien tout ça, et on y va en espérant que la nouvelle année sera meilleure. D'ailleurs, si on n'est pas tout à fait convaincu, que fait-on au 1er janvier quand on est poli, quand on a des amis, quand on aime des gens? On se précipite aujourd'hui sur le téléphone. Il y a quelques années, on se précipitait sur un stylo pour écrire et on fêtait les vœux à tous nos proches, à tous nos amis. Ça, c'est très nouveau historiquement. Mais par le passé, on le faisait de manière absolument différente au moment du carnaval. Au moment du carnaval, le fait de visiter une maison, eh bien, c'est de souhaiter que l'année soit la meilleure possible aux gens de la maison qu'on visite. Et quand on oublie une maison, on ne l'oublie pas. C'est qu'on n'a pas envie d'apporter ce rituel historiquement. Donc si on n'apporte pas ce rituel, quoi qu'il arrive à cette maison, peu nous chaud, peu nous importe cette maison. C'est une manière de se souhaiter, si on veut, la bonne année, sans le dire aussi clairement que ce que l'on fait nous aujourd'hui au 1er janvier. Donc le carnaval remplit de très nombreuses fonctions. Au-delà de la permissivité, au-delà du plaisir de faire ce qu'on a envie, on peut faire des choses qu'habituellement on n'oserait pas faire, devenir un homme sauvage. On n'imagine pas certaines personnes autour de soi qui s'habillent de cette manière-là. Alors, il n'y a pas besoin d'aller simplement en Iturraine ni Subieta pour le voir. On prend une grande partie de la chaîne pyrénéenne, il reste encore de ces rituels. Si on pouvait voir les personnes avant qu'elles se costument qui elles sont et qui elles sont dessous, sous le masque, on serait tout le temps très surpris. L'être humain a besoin de ça. Et puis de ces rites superstitieux, de ces rites protecteurs qui aujourd'hui sont remplacés par les vœux que l'on se fait au mois de janvier.
Radio Cultura. .com